Depuis 3 jours, nous vivons à crédit. Le 22 août était le jour du dépassement de la Terre, ce jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que l'écosystème peut produire en un an. C'est 3 semaines plus tard qu'en 2019, donc c'est une bonne nouvelle, c'est un des rares effets positifs du Covid, mais ça reste évidemment très inquiétant et encore 4 mois à tenir. Sale temps pour la planète, mais également pour les journalistes qui s'y intéressent. RSF, Reporters sans frontières, a choisi cette date pour publier une enquête sur les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales. En moins de 5 ans, RSF a recensé au moins 10 morts et 53 cas de violation de la liberté de la presse liés à cette thématique dans le monde. Pour en parler, nous recevons Catherine Monet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Reporters sans frontières. Et Morgane Large, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Radio Grèce Braise. Et vous êtes en Bretagne. Vous êtes où exactement?
Je suis à Glomel, dans les Côtes d'Armor.
Qu'est-ce que c'est Radio Grèce Braise?
Alors c'est un tout petit média, c'est une radio associative bilingue breton-français où il n'y a pas de publicité, donc on dépend complètement des subventions en vérité.
Catherine Monet, avant qu'on parle plus en détail des violences et des intimidations subies par les journalistes qui traitent des questions environnementales, d'abord cette question, pourquoi ces sujets suscitent des menaces et des violences ?
Je crois que c'est intimement lié à la prise de conscience croissante des enjeux de l'environnement et de l'importance de l'environnement. Et c'est plus les journalistes vont mettre en lumière des faits qui sur lesquels aujourd'hui le public est sensibilisé. Du coup, les gouvernements le sont également. Et plus ça peut devenir dangereux pour eux de mettre en lumière ces faits-là.
Jusqu'à la mort.
Exactement, nous avons recensé, donc vous l'avez dit, 10 morts, dont 9 journalistes assassinés ces 5 dernières années, notamment dans 5 pays du monde, l'Inde, le Mexique, la Colombie, la Birmanie et les Philippines. Et nous avons également le cas d'un journaliste mort dans des conditions suspectes en détention.
On va détailler et tout ça. Morgane Large, est-ce que vous avez la même analyse? Pourquoi, selon vous, ces sujets peuvent susciter autant de menace, que la mort pour un reportage, ça paraît totalement surréaliste, incongru. J'ai pas de mots plus graves.
Ah ben, nous, on n'en est pas là, fort heureusement, dans les médias nationaux ou même les médias locaux, mais on sent qu'on a une pression assez importante pour rester dans des sujets qui ne font pas de bruit, pour faire couler le robinet d'eau tiède, et qu'on veut surtout pas qu'on s'empare de certaines problématiques. Pour nous dissuader de le faire, on met en doute notre légitimité à aborder certains sujets. Moi, j'ai réussi à un peu détourner ça. Notamment, je vis dans le monde rural, donc il y avait des sujets, des domaines qui m'étaient complètement fermés. Je passais pour une écolo, j'ai passé mon permis de chasse, ça m'a permis de montrer aux chasseurs que je suis pas écolo, j'ai mon permis de chasse. Après, j'ai arrêté la radio, je suis allée faire des études agricoles pendant 1 an et demi, parce que j'avais du mal aussi à dialoguer avec le monde agricole, c'était très compliqué, et a priori aussi, ils considéraient que j'étais une écolo. Et je suis devenue élue locale à une époque, pendant quelques années, pour comprendre comment ça fonctionnait aussi au sein des conseils municipaux locaux et des communautés de communes.
Parce qu'on comprend, à vous entendre, on comprend qu'il y a des blocages dans plein de domaines différents. Vous avez la chance d'être en France, et je le disais en introduction, selon les chiffres de RSF, 10 journalistes spécialistes des questions d'environnement tués ces 5 dernières années. Catherine Monet, c'est pire, c'est mieux ou c'est pareil que les années précédentes?
En fait, on est sur malheureusement une constante. Sur la décennie passée, ça fait un total de 20 journalistes tués, dont 10 ces dernières années. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui perdure. Et ces chiffres, alors en même temps, on est dans une constante d'une moyenne de 2 journalistes tués par an, mais cette année n'est pas encore terminée, nous sommes qu'au mois d'août, on a déjà eu 3 morts rien que cette année, donc le bilan pourrait encore être un petit peu plus lourd, et on a déjà... on a déjà recensé le cas de 3 journalistes qui ont été contraints à l'exil pour échapper à la mort. Donc ce bilan aurait pu être encore plus lourd quand on voit par exemple le cas de ce journaliste sud-soudanais qui s'appelle Joseph Odua, qui a été, parce qu'il était accusé de menacer la sécurité nationale pour avoir révélé des faits de pollution, les conséquences de la pollution aux hydrocarbures sur la population, eh bien, il a été menacé, détenu, torturé, même en prison, et il a finalement quitté son pays pour rester en sécurité.
Quels sont les sujets les plus dangereux à couvrir pour les journalistes et dans quelle région du monde ils sont le plus en danger ?
Alors, les sujets dangereux, je regarde mes notes pour ne pas en oublier. Il y a la déforestation, bien sûr, l'extraction minière, en fait, toutes les industries extractives, qu'elles soient légales ou illégales, l'accaparement des terres pour faire aussi bien de l'agrobusiness ou de l'industrie extractive, mais aussi la construction de grands projets, style des oléoducs, des grands barrages, sur des terres ancestrales, sur des terres de communautés autochtones, peuvent créer, tout ça sont des événements qui peuvent créer, qui ont des conséquences très graves, souvent sur l'environnement, et peuvent créer de très grandes tensions.
Mais c'est pas dans n'importe quel pays. Sur quel pays ça se concentre?
Alors, l'ensemble de la planète est concerné. Hein. Ouais. Il y a peu de pays où il n'y a pas d'abus, mais c'est vrai que ça se concentre principalement sur deux régions du monde. Il y a vraiment deux zones rouges. C'est l'Amérique et l'Asie. Et en Asie, il y a aussi un pays qui est record, c'est l'Inde. L'Inde, c'est ce pays qui cumule le plus d'exactions le plus de journalistes tués, le plus de pression, le plus de harcèlement judiciaire.
Quand vous parlez de l'Amérique, c'est l'Amérique au sens large et pas les USA. En Inde, par exemple, il y a eu 4 journalistes assassinés, dont le quotidien d'un correspondant du quotidien Kampu Mail. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'appelle Subhamani Tripathi.
Oui, il a été, c'était très récemment, en juin de cette année, il a été abattu effectivement de 6 balles, dont 3 en pleine tête. Et ça peut, avant avoir justement fait part de ses craintes sur les réseaux sociaux, qu'il pouvait être assassiné en raison de ses enquêtes sur l'extraction illégale de la mafia du sable.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une mafia en Inde qui récupère du sable, qu'ils le déplacent, tout ça est illégal. Ils sont tellement puissants que les journalistes ont peur. 9 journalistes tués, auxquels RSF ajoute une 10e victime, qui lui travaillait pour un site d'info indonésien. Il est mort en détention sur l'île de Bornéo, en Indonésie. En quoi sa mort, dites-vous, est-elle suspecte?
Elle est suspecte parce que, bon, il a été accusé, lui aussi avait travaillé sur des affaires d'expropriation illégale liées aux activités d'une société de production d'huile de palme. Il s'agit de Mohamed Youssouf, et effectivement il avait été accusé de diffamation par cette société de production d'huile de palme, incarcéré pour cela, et sa mort est suspecte parce que sa femme nous a signalé notamment elle ne croit pas à une mort naturelle. Des traces de coups ont été retrouvées sur son corps au niveau de la nuque, donc sa mort est très suspecte, et il n'y a toujours pas eu d'enquête, contrairement à la demande des proches et des organisations.
Je vais ajouter un cas à cette triste litanie. Il y a des tentatives d'assassinat. Par exemple, l'Américain Brandon Lee, il a échappé de peu à la mort le 6 août 2019 aux Philippines. Il ramenait sa fille à l'école. Lui, il travaillait sur quoi?
Lui aussi, il travaillait sur des sujets environnementaux, notamment dans le nord de l'archipel des Philippines. Et il est le premier à dire que de travailler sur ces sujets, en fait, c'est extrêmement dangereux parce qu'il dénonce, en fait, des faits que tous les gouvernements aimeraient pouvoir dissimuler.
C'est une tentative, dans son cas, d'assassinat. Vous avez pu lui parler. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il sait qui a tenté de l'assassiner?
On s'en doute bien, c'est toujours il ne va désigner personne et c'est très dangereux d'aller plus vite que la justice. Mais on se doute bien que ce sont les acteurs impliqués directement dans les industries, soit extractives, soit de l'agrobusiness, qui sont liés aux gouvernements locaux, aux autorités locales, qui ont un intérêt elles-mêmes à maintenir, à ne pas révéler ce qu'il se passe, ou en tout cas les conséquences environnementales, qui sont directement liées à ces meurtres ou à ces tentatives de meurtre. Très souvent, ça peut être le cas aux Philippines, mais on le voit beaucoup en Inde, justement lié à la mafia du sable, ce sont les responsables politiques locaux, eux-mêmes directement, qui vont envoyer leurs hommes de main pour faire taire un journaliste.
Pas de meurtre en France, heureusement, à ce sujet, mais des tentatives d'intimidation. On continue à en parler, cette situation des journalistes qui s'intéressent à l'environnement, avec Catherine Monet, rédactrice chef adjointe à RSF, et Morgane Large, qui nous écoute et qui nous parle depuis la Bretagne, journaliste vert. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. En compagnie de Catherine Monet, rédactrice en chef adjointe à Reporters sans frontières, RSF, qui s'inquiète du nombre de morts de journalistes dans le monde. Ils sont morts à cause d'enquêtes qu'ils faisaient au sujet de l'environnement. Nous sommes également avec Morgane Large, elle est journaliste pour Radio Crèze Brèze, qui est une radio associative bretonne. On a parlé des cas terribles, 53 cas de violation de liberté de la presse dans le monde ces 5 dernières années, en plus des assassinats. Qu'en est-il en France pour les journalistes spécialisés dans les questions environnementales? Morgane Large, vous travaillez en Bretagne. Sur quel sujet vous enquêtez?
Sur les sujets environnementaux principalement, l'agroalimentaire, la problématique des algues vertes, les carrières aussi. Alors Catherine Moret parlait des sujets environnementaux sensibles. Eh bien, on a à peu près les mêmes ici. À Glomel, il y a une énorme carrière qui est impliquée dans une pollution de rivière. C'est Imerys, c'est une multinationale. On a un site de stockage de pesticides, c'est Triskalia, c'est aussi un énorme groupe agroalimentaire, et c'est des gens qui travaillent aussi dans d'autres pays. Imerys travaille en Australie, en Afrique du Sud. Donc on a l'impression que c'est la petite entreprise locale, et puis en fait non, on s'attaque quand même à des mastodontes.
Je termine votre question, votre phrase. C'est des gens qui... Quelle pression subissez-vous et de la part de qui?
Alors, par exemple, je donne un exemple, la radio pour laquelle je travaille, il y avait la construction d'une porcherie industrielle avec 800 maires, donc c'est assez énorme. Il y a une association qui s'est constituée pour s'opposer à cette porcherie, c'était dans une petite commune par ici, commune qui par ailleurs nous verse une petite subvention annuelle de 70 euros, je crois. Eh bien, j'invite à la radio les opposants à la porcherie. J'avais proposé aux porteurs de projet de venir aussi en parler, c'était en direct. Mmh. Pendant le direct, le maire de la commune téléphone pour dire que la subvention, c'est fini. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. J'ai témoigné sur le site de stockage de pesticides de Glomel, qui s'est débarrassé de pesticides de manière très dangereuse pour l'environnement, selon un témoin. Mmh. À la suite de cela, l'année suivante, la commune de Glomel a supprimé la subvention qu'il versait à la radio pour laquelle je travaillais.
Et vous avez également...
J'ai enquêté sur un abattoir. Pendant 3 ans, le média pour lequel je travaille n'a pas été invité à toutes les réunions presse organisées par la communauté de communes qui gère ce même abattoir.
Vous savez, on fait parfois ça dans le cinéma, c'est pas encore tout à fait des pressions, mais il y a beaucoup plus grave, évidemment. Vous travaillez avec la journaliste indépendante Inès Leroux sur les conséquences environnementales de l'agriculture intensive en Bretagne. Elle a déjà fait l'objet de 2 plaintes en diffamation en l'espace de 2 ans. On l'avait reçue la saison dernière dans Culture Média, c'était le 14 mai. Elle nous racontait les pressions et les menaces qu'elle a subies après la parution de son enquête intitulée « Algues vertes, l'histoire interdite », Inès Leroux.
J'ai commencé déjà à en recevoir pendant l'enquête. Ouais. Des témoins ont reçu des menaces de mort. Une autre témoin qui travaillait pour une association a perdu des subventions. Et moi, j'ai été pas mal discréditée sur les réseaux sociaux de ces groupes agroalimentaires. Et puis quand l'enquête est parue, petit à petit, j'ai eu un premier procès en diffamation, puis un second, avec la particularité que le second, en fait, l'attaque en diffamation n'était adressée qu'à moi, pas même à mon éditeur, que la plainte a donc été déposée chez moi. Enfin, c'était même pas chez moi, c'était des amis qui me prêtaient une maison.
En voie même de parler des plaintes, déjà, vous deviez aller au Salon du Livre de Quintin, qui est dans les Côtes d'Armor, et votre intervention a été annulée.
J'ai été invitée officiellement, et puis après, j'ai appris par les organisateurs que le maire adjoint, qui travaille à la Chambre d'agriculture, dirigée par la FNSEA, le principal syndicat agricole, avait demandé aux membres du Salon du Livre que je ne vienne pas.
D'accord.
Et ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont subventionnés par la commune, en fait.
Morgane Large, vous travaillez avec Inès Leroux, qu'on vient d'entendre. Nous l'avions reçue en mai, parce qu'elle avait enfin osé briser le silence, et un comité de soutien s'était formé. Où est-ce que ça en est?
Autour d'Inès Leroux, elle attend le prochain procès en diffamation qui interviendra en janvier 2021.
Il y a une autre pression qu'elle raconte, qu'on peut subir dans votre cas quand on habite dans une petite ville, un petit village, c'est que tout le monde vous connaît, même tout le monde a votre adresse.
Ah bah oui, bien sûr, moi il y a des gens qui ont fini par arriver chez moi à la suite d'articles.
Racontez.
Dans ces cas-là, j'ouvre pas ma porte, mais c'était un soir d'été, il était 9h30, 10h le soir, j'ai entendu un 4x4 arriver, c'était un exploitant agricole. Je suis sortie pour discuter, parce que soit on s'enferme et puis on met un grand portail et du grillage partout, et puis on vit dans un bunker, soit on décide de rester vivre au pays, tout en se donnant le droit de traiter de ces problématiques-là, qui sont complexes. Et qui sont clivantes. Mais moi, en général, je pense que le dialogue, c'est quand même ce qu'il faut maintenir. Après, j'ai des enfants et ça, c'est gênant parce que je suis pas vraiment inquiète pour moi, mais j'ai une inquiétude un peu sourde par rapport à mes enfants qui sont amenés à parfois rester seuls à la maison. Ils sont grands. Et des fois, je dis pas à mes enfants sur quoi j'enquête.
Catherine Monnet, traîner les journalistes en justice, c'est une méthode utilisée partout dans le monde ?
Oui, c'est une méthode très courante et la diffamation est quelque chose de très souvent utilisé. Alors, évidemment, tout le monde a le droit de porter plainte pour diffamation, mais il faut pas confondre, là où on intervient, on dit attention, c'est plus de l'ordre du harcèlement judiciaire que de la vraie diffamation, c'est que il faut faire la différence entre le droit, une volonté délibérée de dénigrer quelqu'un et la révélation de faits qui vont gêner un industriel, un responsable politique local. Et là, il y a procédure judiciaire en fait pour réduire le journaliste au silence, parce que c'est évident que pendant qu'un journaliste passe du temps à se défendre ou peut à raison avoir peur des pressions qui s'exercent, parce que souvent il y a comme le raconte Morgane, il y a beaucoup de pressions beaucoup plus insidieuses autour, et ben ça réduit les gens au silence.
Ouais. Plus il y a de pression sur les journalistes et plus les questions environnementales ont de chances de passer à la trappe. On l'a compris dans ce que vous dites. Morgane Larche, c'est quoi la solution?
La solution, c'est de continuer. Alors moi, une de mes solutions, ça a été de travailler pour aussi d'autres médias que la radio pour laquelle je travaille. Parce que moi, j'ai eu des collègues qui m'ont dit « tu devrais faire attention à ce que tu dis », sous-entendant que je mettais en péril le média pour lequel eux aussi travaillaient et leur emploi. Donc, et puis on me demande aussi de passer à d'autres sujets, de passer à autre chose. On n'a pas les moyens de grands médias. On n'est pas diligenté sur des enquêtes sur des temps longs. Or, c'est un travail qui demande un temps très long. On lit des enquêtes publiques de 200 pages. Moi, ça m'arrive de lire des avis de la population, enfin des avis lors d'enquêtes publiques. C'est 300 avis et je suis obligée de les classer, les trier. Donc, je pige pour d'autres médias, mais on est très fragile en tant que pigiste. Hein.
Évidemment. Catherine Monnet, comment votre association RSF, Reporters sans frontières, peut protéger ces journalistes?
Alors en fait, nous-mêmes, on appelle d'abord à leur protection et c'est essentiel effectivement d'essayer de mettre en place les moyens pour permettre à ces journalistes de continuer à travailler en toute sécurité. Et c'est d'autant plus important parce que si on maintient ces trous noirs, dans ces trous noirs de l'information par exemple comme en Inde, où c'est devenu, où les violences sont telles que les journalistes ont tellement peur qu'ils finissent par ne plus rapporter les conséquences environnementales de certaines activités, quand on en est là, en fait ça aggrave finalement les catastrophes environnementales. Donc c'est très important effectivement de permettre aux journalistes de continuer leurs enquêtes.
Et sans aller jusqu'à l'Inde, puisque même des gens bien intentionnés ont proposé à Morgane Larche de changer de sujet. Morgane Larche, où est-ce qu'on pourra lire ou entendre votre prochaine enquête, si tant est que vous puissiez dire ici le sujet sur lequel vous travaillez actuellement?
Eh bien justement, en tant que pigiste, c'est ça qui est formidable, c'est que je travaille sur quelque chose et je ne sais pas quel média va le prendre. Voilà.
Profitez-en, les patrons de chaîne, les patrons de radio et les patrons de journaux nous écoutent. Alors,
voilà. Alors je voulais dire à Catherine Monnet, Reporters sans frontières fait aussi quelque chose d'assez formidable, c'est qu'on a des gros soucis par rapport à l'informatique. La même semaine, en juillet dernier, moi je me suis retrouvée avec ma page Facebook qui était verrouillée, je ne pouvais plus envoyer aucun mail et mon téléphone, celui avec lequel je vous appelle là, pendant 4 jours n'a capté aucun réseau. Et Reporters sans frontières apporte des conseils et une aide au niveau informatique quand on a des problèmes, notamment entre autres.
Voilà, sans parler de zone blanche, je rappelle que vous êtes dans les Côtes d'Armor. Morgane Larche, vous ne m'avez toujours pas dit sur quel sujet vous travaillez.
Les faucheurs volontaires d'OGM, les boîtes de communication du type agriculteur de Bretagne. On continue on travaille aussi sur l'accident du méthaniseur qu'il y a eu à Châteaulin, qui a privé 180 000 personnes d'eau potable dans le Finistère Sud, et méthaniseur que le préfet a décidé de fermer, le préfet a arrêté l'activité du méthaniseur hier. Donc tout ça, c'est des sujets qui intéressent énormément la population. Mais par exemple, pour ce méthaniseur, l'accident survient le 17, le préfet prévient la population le 19, sans dire, il parle de pollution, il ne met pas en cause le méthaniseur, ce gros méthaniseur qui travaille avec des lisiers, des fumiers, des élevages très industriels, mais aussi avec des déchets des industries agroalimentaires. À Châteaulin, la plus grosse industrie alimentaire, c'est un abattoir de poulets.
Merci beaucoup Morgane Large. Je rappelle que vous travaillez pour Radio Crèze Brèze, mais que les sujets, les enquêtes sur lesquelles vous travaillez n'ont pas encore été pourvus, si j'ose dire. Vous êtes pigiste et vous n'avez pas de médias sur lesquels les publier. Les patrons de presse, ils veulent nous contacter, ils le peuvent également. Ils peuvent passer par RSF. On va évidemment pas donner vos coordonnées à l'antenne. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média et merci également à Catherine Monet. Vous êtes rédac chef adjointe à Reporters sans frontières. Merci d'avoir été toutes les deux en direct ici dans cette émission.